Good Morning Business, le grand débat.
Pour ceux qui sont à la radio, je pense que ça les intéresse assez peu.
Mais pour nous, c'est pas pareil.
En télé, vous avez un éclair.
À la télé, normalement, on a un fond derrière avec nos deux noms.
Et un éclair.
Et là, ça vous fait plaisir. Rien du tout.
Allez, on commence avec ASML et l'État néerlandais.
Je comprends pas le sujet là.
Alors, je vous explique. ASML ne viendra pas en France. Oui. Ils avaient menacé de venir en France.
Évidemment.
L'État néerlandais en disant, puisque vous voulez arrêter que les talents étrangers viennent librement aux Pays-Bas pour travailler chez nous, c'était une proposition de l'extrême droite, eh ben on va aller en France. Donc l'État néerlandais a mis en place un plan, le plan Beethoven, qui notamment met à l'intérieur pas mal d'investissements et qui garantit que les talents pourront revenir comme avant. Donc on aura pas ASML. Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'ASML arrive à faire plier un État ou pas ?
Mais c'est pas du tout. Enfin, je pense que c'est pas le sujet. C'est-à-dire, c'est pas le sujet de savoir si ASML peut faire plier un État. Le sujet, c'est est-ce qu'un État peut laisser partir une entreprise aussi stratégique ? Parce qu'on rappelle ce que fait ASML. Hein,
les semi-conducteurs.
Les semi-conducteurs et les puces. C'est-à-dire que c'est le sujet des cinq années qui viennent. On voit Nvidia, on voit le problème de Taïwan. Hein. On va perdre Taïwan un jour. Donc à un moment donné, il y a un problème d'indépendance de l'Europe. ASML, c'est pas que pour les Pays-Bas, c'est aussi pour l'Europe. La question, c'est est-ce qu'un pays peut laisser partir une entreprise qui est une entreprise stratégique, la réponse est juste non.
Non.
Donc elle doit accepter ces conditions qui ne sont pas forcément de mauvaises conditions, qui sont des conditions normales pour pouvoir choisir un pays plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que ce que demande ASML, c'est la possibilité de travailler dans de bonnes conditions.
Ils font plier la politique quand même, une décision politique. Vous dites c'est une bonne décision, peut-être, mais... Mais ce n'est pas une plier,
c'est une négociation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites, attendez, nous on veut bien rester ici, mais il nous faut ça, ça, ça et ça pour continuer à être les leaders de notre secteur. Bah, évidemment, l'État doit assurer ce type de choses. Enfin, ça me paraît totalement logique.
Emmanuel.
Ça me paraît plus logique que d'offrir des trucs incroyables à des constructeurs chinois pour qu'ils viennent ouvrir des usines de voitures en France, nous inonder de bagnoles pourries et qui vont rien nous rapporter.
Emmanuel.
Bah pour le coup, il n'y a pas beaucoup de sujets sur lesquels on sera aussi d'accord. Que,
ah bon, alors on va passer à celui d'après, mais allez-y.
Non, que celui-là, mais c'est évidemment, effectivement, l'intérêt bien compris. C'est-à-dire qu'on parle toujours du commerce international, des intérêts entre deux pays gagnant-gagnant. Bah là, vous avez des grandes entreprises qui sont d'envergure mondiale par leur taille, par leur secteur.
Et stratégique
par leur importance. Donc, bien évidemment que ces entreprises ont un pouvoir de négociation. Et ça existe depuis toujours et ça existe pour toutes les activités. De tout temps, vous avez des grandes entreprises qui ont un pouvoir de négociation que les États se sont battus pour accueillir. Rappelez-vous quand il a fallu, sur un tout autre registre, rappelez-vous quand il a fallu accueillir Disney en Europe, tous les pays d'Europe déroulaient le tapis rouge à Disney pour venir s'installer.
Mais je suis pas d'accord.
Là, pour on parle de stratégie et de géopolitique.
Oui,
c'est-à-dire qu'on sait que la Chine va envahir Taïwan, qu'on n'aura plus de semi-conducteurs disponibles et qu'on va avoir des difficultés, qu'on est tous en train de dire qu'il faut améliorer notre indépendance stratégique dans les secteurs stratégiques. Et là, vous nous expliquez que c'est un problème économique. Maintenant, je vous dis c'est un problème géostratégique, géopolitique et politique.
D'accord, mais vous avez des gens élus qui font des promesses.
Sur le plan géopolitique, que la localisation, ce soit les Pays-Bas ou la France, bon, je ne suis pas sûr que ça changeait grand-chose.
Non, mais quelle logique d'aller en France ? C'est-à-dire, de toute façon, je vais vous dire une chose, s'ils étaient venus en France, c'était un loose complet pour le français. C'est-à-dire qu'on leur aurait fait un tel tapis rouge,
oui,
dit Emmanuel,
c'est ça,
qu'on aurait perdu de l'argent pendant 15 ans.
Bon, alors vous êtes d'accord sur ce sujet, je passe à celui d'après. Le déficit public qui a été publié, je sais que ça vous rend fou depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on fait ?
Ça me rend dingue.
De l'austérité, vite, de l'austérité.
Mais de l'austérité, vite. Je pense qu'il faut revenir à l'essence d'un système de protection sociale. Un système de protection sociale n'a pas vocation à protéger tout le monde, tout le temps, contre n'importe quoi. Il a vocation à protéger les personnes les plus défavorisées. Pour pouvoir continuer à protéger les personnes les plus défavorisées, on ne peut pas continuer à protéger tout le monde tout le temps. Ça y est, on l'a fait, on est arrivé au bout de l'exercice, Bruno Le Maire a fait n'importe quoi pendant 7 ans, on a fait un quoi qu'il en coûte avec Emmanuel Macron qui a été désastreux, ça y est, on y est, on va être, j'espère, c'est mon souhait le plus profond, que notre note soit dégradée, voilà, je le dis.
Mais qu'est-ce que ça changera ?
Ça changera qu'on sera quand même, Emmanuel ne va pas être d'accord avec moi, parce qu'il va dire, bon, ça fait des années qu'on nous fait peur avec ça, je pense que la dégradation de la dette va être un électrochoc, et que ça va nous permettre enfin enfin de prendre des mesures. Et moi,
je trouve ça... Notre taux va passer au-dessus des 3%.
Mais non, alors justement, c'est ça le problème. Mais vous avez raison, c'est très intéressant pour une fois ce que vous dites.
Ah, merci.
C'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on bénéficie tellement de la protection de l'Allemagne et de la protection de l'euro que notre taux ne reflète pas notre situation désastreuse. Seulement, il y a un moment où il y a quelqu'un qui va siffler à la fin de partie. Les Allemands vont en parler tout à l'heure. S'ils font de la rigueur chez eux, c'est pas pour faire un chèque en blanc à des gens qui...
Enfin, les assureurs peuvent toujours acheter de la dette française, même si elle est dégradée, ça change rien dans leur compte.
On verra. Je vais vous dire une chose, si on commence à avoir même la dette française qui commence à croiser les taux de la dette française, qui commence à croiser les taux de la dette espagnole et de la dette italienne, et qu'on a une prime de taux par rapport au taux allemand qui soit supérieur à ces pays-là, et ça va être le cas.
Pour l'instant, on en est loin, Marc. Hein.
Et ça va être... On n'en est pas très loin. Les tendances ne vont pas dans le sens de ce que vous dites. Le taux italien, les taux espagnols baissent. Oui. Leurs primes baissent de façon spectaculaire. La nôtre stagne et augmente un peu. Si les primes se croisent, je peux vous assurer que ça ne sera plus la même ambiance.
Non, Emmanuel.
On a encore beaucoup de temps avant que ça aille mal. C'est-à-dire que les propos de Marc, ils n'arrivent même plus à faire peur et à inquiéter, puisqu'on les tient depuis, à peu près une trentaine d'années.
Il y a eu un changement d'ambiance depuis trois jours.
Marc, évidemment, il se place à l'échelle.
Rigueur, austérité, des mots qu'on n'entendait pas il y a une semaine.
Oui, on
les a entendus il y a 7 ans, on les a entendus il y a 10 ans, on les a entendus il y a 15 ans.
Et à chaque fois, ça n'a rien fait.
Je suis désolé. François Fillon nous disait en 2007 qu'il était à la tête d'un État en faillite. La France a été dégradée sous Nicolas Sarkozy. Ça a été soi-disant la catastrophe. Résultat, ça n'a pas été du tout la catastrophe, puisque la trajectoire de nos finances publiques est restée totalement inchangée et que la France
aussi
peu. Oui, alors qu'on dise que c'est grave et que la tendance est préoccupante, bien sûr, mais ne vois pas au nom de quoi, finalement, il y aurait une situation d'urgence. Si la note est dégradée, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, on n'est pas encore... Il y a un seuil qui est critique, c'est le seuil, effectivement, en deçà duquel, pour des raisons prudentielles, tous les grands fonds ne peuvent plus acheter une dette. On n'y est pas encore. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Et le problème, c'est que c'est pas les marchés, ils n'ont pas de discernement particulier, ils ne font pas une analyse approfondie de la situation
macro.
Si c'était le cas, les taux d'intérêt ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais c'est pas la haine des marchés, c'est l'inefficience des marchés. Quand on a lancé l'euro, Marc, il était déjà là.
Ta frustration de n'avoir jamais travaillé dans une salle de marché.
Non mais attendez, Marc, ça me fait marrer.
C'est sa frustration de n'avoir jamais travaillé dans une salle de marché.
Ça me fait marrer parce que quand on a lancé l'euro, l'argument principal, c'était de dire « Ah oui, mais maintenant, chaque pays sera soumis à la discipline des marchés, la sanction des taux d'intérêt sera... »
C'est vrai qu'elle n'a pas eu lieu en 2010, il ne s'est rien passé.
Jamais.
Il ne s'est rien passé en 2010, la crise de l'euro.
La Grèce, jusqu'à la crise de la dette grecque, elle empruntait au même taux que l'Allemagne et que la France, et vous pensez même pas, et on peut même pas dire que c'était des économies pareilles. Donc là, le problème, c'est que vous avez un tel réservoir d'épargne aujourd'hui dans le monde que...
Il y a de moins en moins de liquidités.
Tout le monde veut la dette européenne.
Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Mais tout ça, je ne dis pas que ça n'est pas grave, la dégradation des finances publiques. Attention.
Vous allez voir la crise française
est loin d'être imminente.
Mais tant qu'il n'y a pas beaucoup de dettes allemandes à acheter, ça va nous faire le lien avec le sujet d'après sur l'Allemagne. Tant que l'Allemagne n'émet pas plus de dettes alors que tout le monde veut de la dette allemande, ils achètent de la dette française. Donc finalement, on est protégés.
Ils achèteront peut-être de la dette d'autres pays. C'est-à-dire que c'est une question de... On ne peut pas figer, évidemment, aujourd'hui, le taux de la dette française est ridiculement bas et il n'est pas inquiétant. C'est ce qui nous permet cette gabegie. C'est-à-dire que si on avait le taux qu'on méritait, on devrait être à 6, 7 ou 8%. Si on était à 8%, la question ne se poserait plus. Mais si vous allez voir, si on a des évolutions de primes de risque. Alors, Emmanuel dit que ce n'est pas important, les marchés. Non, c'est important. S'il y a même 10 points de prime de risque en plus, ça commence à peser, puis ça pèse sur le poids de la dette.
Des soubresauts comme ça, on en a connu des dizaines.
Ouais.
Et à chaque fois, la situation est revenue à la normale.
Non, mais
le vrai débat de fond,
tu peux pas dire que la situation est revenue à la normale. Regarde le niveau de la dette sur les marchés. Oui, mais regarde le niveau de la dette.
Tu vois bien que les marchés n'en tiennent pas compte. Non, je pense qu'on a une vraie divergence sur ce que Marc a dit au début, c'est-à-dire sur ce modèle de protection française.
Alors là, il faut lire le livre de Bruno Le Maire, qui ne dit pas la même chose que Bruno Le Maire.
D'ailleurs, ce qui est assez paradoxal dans les propos de Marc, c'est que...
Il est d'accord avec le livre de Bruno Le Maire.
Absolument, c'est-à-dire que ses propos liminaires, on a l'impression qu'il reprend mot pour mot.
Sauf que ce n'est pas le même, il y a deux Bruno Le Maire.
Oui, mais
je suis d'accord avec le Bruno Le Maire qui écrit le livre, qui n'est pas Bruno Le Maire, donc je pense que Bruno Le Maire qui est
la question, Marc, j'aimerais bien que tu me dises, est-ce que tu penses que c'est le modèle français dans son essence qui n'est plus viable et qui est trop luxueux pour la France d'aujourd'hui et qu'il faut changer? Alors, je pense que le modèle français, c'est le meilleur du monde, et que s'il était géré correctement, sans aberration, sans gaspillage, sans dysfonctionnement, ça il serait parfaitement finançable et il resterait le meilleur modèle du monde dans sa philosophie.
Alors, ma réponse à ta question est simple, c'est que le modèle français dans son essence est le bon.
Ouais.
Sauf que le modèle français a été dévoyé. C'est-à-dire qu'on a un modèle de protection sociale qui n'est plus un modèle de protection sociale, qui est un modèle de protection de tous. Dans tous les cas, il y a des inondations, il y a des averses, il y a le Covid, il y a la hausse du prix de l'essence, et l'État doit intervenir partout. C'est pas du tout ce qui était écrit, c'est pas ça le modèle français de protection sociale. Le modèle français de protection sociale, c'est l'aide aux plus défavorisés et permettre dans des conditions difficiles d'avoir un soutien. Mais si on veut soutenir les gens dans des conditions difficiles, il faut arrêter de soutenir tout le monde.
Donc on a l'emploi à domicile, c'était une des pistes de la Cour des comptes.
Mais délirant.
Tout ça,
mais délirant.
Non, mais on
mais
arrête
c'est
avec
peanuts,
toutes les niches, tout ça.
Non, mais peanuts, c'est un changement de mentalité. C'est pas une question.
Non, mais je veux dire, quand on veut aller chercher
un changement de mentalité,
quand il faut aller chercher des dizaines de milliards d'économies,
c'est pas un problème.
Et qu'on va chercher à chaque fois des centaines de millions, voire quelques milliards,
un milliard,
ça ne marche pas.
Tu trompes de débat.
Moi, non.
Il s'agit pas de chercher un milliard par-ci par-là. Il s'agit de changer mentalité,
Marc,
et revenir.
Tu vois bien que ça n'est pas à l'ordre du jour, puisque ce qui reviendrait à faire cette réforme de. Mais moi j'en arrive.
Ce que dit Gabriel Attal depuis 3-4 jours est quand même intéressant. Il faut écouter, on critique.
Mais
on critique
il dit la même chose que ses prédécesseurs ont dit avant lui.
Il joue le rôle du bad cop. Ben, il le joue plutôt pas mal. Il dit des choses qui
sont
réelles.
Dernier mot, Emmanuel, sur les finances publiques, et on passe à l'Allemagne.
Non, mais j'en finis, moi, par... parce que quand on se dit, mais comment on peut en sortir? Tout le monde dit réforme de l'État, modernisation, etc.
On connaît la liste.
Bon,
hein.
on voit bien que... Moi, je n'y crois plus.
À la réforme de l'État.
Et je finis par échafauder un scénario à la Marc Fiorentino. Je me dis, mais quand on voit, par exemple, tout ce que permet l'intelligence artificielle, ou va très vite permettre l'intelligence artificielle, je vous renvoie à un très bon papier de Gilles Babinet qui a expliqué comment, finalement, tout. Bah, je me dis, allez, et si ça changeait la donne dans l'approche de nos services publics, de nos finances publiques.
C'est l'IA qui va faire la réforme de l'État.
Bah, moi, je finis par me dire, quand vous vous tournez, vous voyez bien que c'est pas
la réforme de l'État qui.
C'est pas
l'État qu'il faut réformer. C'est la mentalité des Français qu'il faut changer. C'est-à-dire qu'il faut leur expliquer qu'on peut pas être partout, tout le temps, pour n'importe qui, qu'on peut pas avoir les mêmes couvertures pour des gens qui ont meilleurs revenus que des gens qui ont le SMIG. C'est juste pas possible.
Mais Marc, l'approche, on va changer la mentalité, ça ne marche pas.
Mais
comme
on continue,
on va changer la même chose que pour quelqu'un qui a besoin de l'essence pour aller travailler.
Et on ne peut pas changer de peuple, Marc.
Allez, on passe à l'Allemagne, Schadenfreude. Vous savez ce que ça veut dire,
ouais, ben bien sûr.
La joie maligne.
Mais ça, c'est Emmanuel.
C'est le sentiment
français quand on regarde
l'Allemagne.
Alors ça, c'est vraiment Emmanuel Le Chip quand on parle de l'Allemagne.
Mais pas du tout.
C'est-à-dire, c'est la jouissance. Ouais, ne le prends pas mal, hein, je ne te vise pas directement. C'est la jouissance du cancre quand le premier de la classe dérape un peu. Et je le vois dans son visage, je le vois dans le visage de plein de commentateurs. Ah là là, l'Allemagne va faire 0,1% de croissance.
Mais l'écart avec ce qui était prévu était quand même énorme.
C'est même plus le sujet.
Non, mais je leur dis quand même, écoutez, est-ce que peut-être il vaut mieux faire 0,1% de croissance avec des dépenses saines pendant des phases de transition? C'est-à-dire, les gens qui raisonnent comme ça, c'est des gens qui n'ont jamais géré d'entreprise. Quand on gère une entreprise, il faut accepter, dans des périodes de difficulté, des périodes de changement de business model, qu'on fasse pas de croissance. D'accord? C'est subi, mais c'est accepté.
Le dos rond, quoi.
Non, c'est pas le dos rond, c'est qu'il y a des phases dans les entreprises. Quand on gère une entreprise, il y a ce qu'on appelle des phases de transition. Les phases de transition, c'est lesquelles? C'est des phases où on a fait des erreurs par le passé, où il y a un problème de business model, on réévalue le business model et on repart vers l'avant. Mais la dernière chose à faire dans ces phases de transition, c'est d'aller voir son banquier pour emprunter de l'argent, juste pour créer de la croissance à crédit, c'est ce qu'on a fait en France. Notre croissance de l'année dernière, compte tenu du fait qu'on l'a fait à crédit, elle vaut zéro. Elle ne construit rien. elle ne construit pas l'avenir. Ce qui construit l'avenir, c'est de être capable à certains moments. Alors maintenant,
du coup, le rebond prévu pour 2025, vous y croyez ?
Évidemment. Non, mais c'est pas que j'y crois. C'est que je vous dis en 2026-2027, l'Allemagne va changer ses règles d'endettement et ça va être la locomotive de la croissance européenne.
Emmanuel.
Non, mais je pense que on peut effectivement, il faut pas être dupe de la performance française à crédit comparée à la performance allemande. La vraie question, Marc l'a dit, il y a des périodes de transition, mais la vraie question c'est est-ce que l'Allemagne est engagée dans une période de transition ? À la différence de la France, qui est un pays quand même qui s'agite en permanence, qui n'a pas vraiment de vision, de stratégie.
Aucune.
Et qui court dans tous les sens, l'Allemagne, elle a une caractéristique, c'est que c'est un pays qui régulièrement revisite son modèle.
C'est un paquebot.
Mais... Oui, alors oui, au sens où, par exemple, reprenez le dernier grand changement de modèle de l'Allemagne, c'est la fin des années 90, le début des années 2000. On a mis en place des nouveaux équilibres économiques avec les lois Hartz, etc. Et depuis, finalement, l'Allemagne a vécu là-dessus. Et on voit bien que l'Allemagne arrive aujourd'hui au bout de cette logique et que le modèle allemand va devoir se réinventer parce que c'est un pays qui est quand même sur des industries qui sont plus des industries d'hier que des industries de demain. Mais c'est un pays qui a cette supériorité sur nous et il en a deux. La première, c'est qu'il y a une capacité de consensus dans le monde de l'entreprise.
Il y a un consensus social.
Avec les syndicats.
Absolument.
À fixer une direction.
Absolument.
C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les 2-3 années qui viennent en Allemagne pour donner une nouvelle orientation à l'économie du pays.
Et tout le monde va travailler dans le même sens.
Et l'autre avantage qu'a l'Allemagne aussi, c'est que pour le coup, elle a son destin entre les mains, puisqu'elle a les moyens financiers.
Et largement
elle,
les moyens financiers.
D'investir, ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à maintenant. Mmh. Hein, c'est-à-dire que Mme Merkel, que Marc admire tant.
Et que je regrette. Tous les jours.
Ça aurait été, ça aurait été la pire dirigeante.
Depuis qu'elle est partie,
ça aurait été la pire dirigeante dans les périodes de transition, puisqu'elle n'a été capable de mener aucune évolution. Le sujet, c'est que c'est le point faible de l'Allemagne, la politique.
Je sais.
Laure, elle me ment.
Parce que, effectivement, quand vous êtes dirigé par un chancelier qui résonne comme dans les années 80, c'est compliqué. Mettez l'Allemagne avec une nouvelle génération de politique qui est capable de voir l'avenir, avec la force des entreprises allemandes et les moyens de la puissance publique allemande, vous vous dites que oui, c'est un pays qui a un bel avenir, mais qui n'est pas joué. Mais plus prometteur que celui de la France.
C'est votre argent ce soir exceptionnel avec Benaouda Abdedaïm. Donc pour une fois, on va avoir des gens qui vont dire des choses intéressantes.
Notamment sur l'Allemagne. Si vous avez des posters d'Angela Merkel, vous voulez les envoyer pour Marc Fiorentino.
Moi, je vais vous présenter dans la librairie un des 25 types qui change le plus le monde. C'est une star. Il s'appelle Brent Smith. Il était pêcheur. Il est devenu fermier des mers. C'est un récit extraordinaire.